Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc qui commence. Et ce soir, donc, c'est Jean Mathias qui va tenir le crachoir et qui va nous parler d'un livre d'Ignacio Ramonet, l'ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Et c'est un livre qui s'intitule, d'Ignacio Ramonet, qui s'intitule « L'Empire de la Surveillance ». Et c'est suivi de deux entretiens avec, d'une part, Julien Assange, le fondateur de Wikileaks, et d'autre part Noam Chomsky, bon, qu'on ne présente plus trop, le linguiste, philosophe et anarchiste américain. Voilà, alors, moi je ne l'ai pas lu, donc je peux vous dire que c'est un livre jaune. pas tout à fait, en fait, crème plutôt, crème. Voilà, et oui, la couverture est crème, et il a été édité chez Galilée, et il est assez joli. Il est assez joli, voilà. Bon, comme tous les bouquins chez Galilée, il coûte un peu cher. Mais j'imagine que vous pourrez le trouver en bibliothèque. Voilà, donc c'est encore un petit livre sur la paranoïa, enfin, c'est même plus de la paranoïa quand c'est justifié. Sur l'espionnage en informatique, l'espionnage donc sur ces ordinateurs dans lesquels on met de plus en plus à peu près toutes les informations qui concernent notre vie la plus publique et la plus intime. Voilà, donc, alors Jean-Mathias, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre Crème ?
Alors, c'est de couleur crème, voilà, j'aime, j'aime autant. Bah, d'abord, il est pas donné, il est 16 euros. Il n'est pas très long, il se lit bien, il est informé, il y a les deux entretiens à la fin, donc c'est un livre voilà, qui est tout à fait accessible. Il a été édité là, chez Galilée à l'été dernier, si je ne me trompe pas. Donc, c'est voilà, relativement récent. Pourquoi ça, j'avais envie de parler de ça, de ce livre ce soir, là, de l'Empire de la Surveillance, un petit peu dans le prolongement des missions précédentes qu'on avait fait autour de ce thème-là. La surveillance d'Internet, la surveillance des communications électroniques au sens large. Donc voilà, on est nous particulièrement sensibles à ces thématiques-là, un peu dans la filiation d'Orwell et puis des alertes face à un Big Brother 2, 3, 4 ou 5.0, je ne sais plus comment il faut dire, qui se met en place. Dans une émission précédente, on avait parlé d'un livre d'Éric Sadin qui s'appelle La vie algorithmique. Qu'on avait surtout en fait trouvé intéressant pour ses défauts, c'est-à-dire voilà pour son aspect un peu spéculatif, un peu abstrait et un peu philosophique, mais au mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec des spéculations parfois un peu floues sur justement l'espèce d'expansion sans fin de la place d'Internet dans nos vies, dans nos modes de vie et les risques que ça fait courir sur notre vie privée tout simplement et puis aussi sur nos modes de vie et nos formes de vie. Très 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 quotidienne. Alors, ce livre d'Ignacio Ramonet, pour le coup, il est sur un ton qui est très différent. Dans la mesure où il est beaucoup plus politique et il propose une approche beaucoup plus critique, peut-être plus réduite aussi, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est la mise en place d'un vaste conglomérat de surveillance d'État autour d'Internet et des communications électroniques au sens large. Alors Ramonet, t'en as parlé un petit peu là, dans la présentation que t'as fait, donc c'est effectivement un ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Alors il a pas que des aspects sympathiques, c'est un ami personnel de Chavez, il a un anti-américanisme un peu principiel, ce qui n'est pas en soi un défaut, mais qui peut parfois effectivement...
virer au dogmatisme,
il est pas forcément sensible à toutes les problématiques anti-autoritaires qui nous sont chères, mais il a un mérite dans ce livre-là, c'est qu'effectivement, en fait, il a essayé de, il n'y a pas de révélation ou de scoop, mais il essaie de tirer les conséquences et surtout d'informer un petit peu tous les scoops qui ont pu sortir sous l'impulsion d'Assange et de WikiLeaks, c'est-à-dire toutes les révélations qui ont pu être faites sur l'espèce d'entreprise de surveillance systématique mise en place par les agences d'espionnage américaines et aussi européennes, allemandes, britanniques, c'est-à-dire des grandes puissances du Conseil de sécurité de l'ONU essentiellement, puisque c'est là-dessus que c'est elles qui sont le plus en pointe sur cette surveillance-là. Donc, ce qu'on trouve dans ce livre-là, eh bien, c'est une espèce, d'une part, d'historique assez récent, en fait, sur les évolutions et les mutations, en fait, du système d'espionnage des grandes puissances mondiales. La manière dont, finalement, l'espionnage informatique est devenu une arme au sens des armes traditionnelles, c'est-à-dire en plus de l'armée de terre, de l'armée de l'air, etc. Une arme à part entière de tous les ministères de la défense, donc de la guerre des puissances occidentales. Donc il y a un historique de ça, et puis il y a un certain nombre de données aussi quantitatives sur ces questions-là. Alors l'intérêt, me semble-t-il, c'est que souvent sur les questions de surveillance informatique ou d'explosion des données, de la quantité de données et des possibilités de surveillance des individus que ça implique, il y a souvent une espèce de discours un peu flou et en fait assez faux qui consiste en fait à avoir une espèce de menaces un peu indistinctes et indifférenciées, comme si finalement la masse des données en jeu et puis la multiplicité des acteurs, le caractère décentralisé du réseau Internet faisait que finalement on avait affaire à des risques assez flous et peut-être un peu lointains.
On est perdu dans l'océan des données.
Quelque chose comme ça.
Et
voilà.
Donc je peux nager peinard au milieu de l'Atlantique, aucun lifeton ne repérera.
Alors c'était un peu le travers du livre de Sadin dont on avait parlé, qui insistait beaucoup, lui, sur la surveillance publicitaire et les aspects économiques publics et de voilà, les opportunités publicitaires qui se présentaient auprès des cinq grandes firmes de l'informatique mondiale, le fameux GAFAM, là, hein, donc voilà, Google, Apple, Facebook, là, et puis et Microsoft. Et en fait, l'intérêt du bouquin de Ramonet, c'est de montrer qu'en fait, cette surveillance du réseau est en réalité beaucoup plus centralisée que ce qu'on dit habituellement. C'est-à-dire que depuis au moins les années 80, le ministère de la guerre américain, puis celui du ministère de la guerre français...
Secrétaire à la Défense, s'il te plaît.
Voilà, c'est ça. Donc tous ces ministères de la guerre des grandes puissances militaires mondiales ont depuis très longtemps mis en place des programmes extrêmement centralisé, extrêmement performant et qui mobilise beaucoup de gens et beaucoup d'intelligence du numérique pour avoir un système de surveillance qui soit le plus efficace possible selon leurs critères à eux. Et d'après Ramonet, c'est ce que finalement révèlent les fuites relayées par Wikileaks et notamment par Assange. Et c'est l'aspect un peu intéressant, c'est-à-dire que ça a le mérite de repolitiser finalement cette question-là. Hein. Donc le propos de Ramonet, il est très clair, lui, c'est-à-dire que le Wikileaks, et ce qu'on appelle aussi les lanceurs d'alerte, donc Assange, Snowden ou des gens comme ça, sont pour lui des figures absolument incontournables de la démocratie moderne, dans la mesure où... une des manières de définir la démocratie aujourd'hui, d'après Ramonet, c'est de faire en sorte que les citoyens en savent le plus possible sur l'État, à une époque où l'État en sait toujours davantage sur les citoyens. Donc, peu importe derrière, effectivement, les raisons d'État qu'on peut invoquer en termes de mise en danger, de personnel militaire, plus ou moins officiel, ou plus ou moins barbouzeux, qui sont sur le terrain, c'est clair que prendre la mesure des risques que font peser ces systèmes de surveillance centralisés et extrêmement téléguidés par des politiques d'État et des politiques d'espionnage systématique de la population, plus on en saura là-dessus, et mieux ça vaut, et il est temps, effectivement, de numéroter nos abattis et de trouver, d'une part, de porter la question dans le débat public et de manière urgente, parce qu'effectivement les enjeux sont de taille, et puis de réfléchir à la manière aussi concrète de nous protéger effectivement de cette surveillance-là. Bon, c'est peut-être le point faible, j'y reviendrai, du bouquin, parce que pour l'instant il semble que les moyens techniques dont on dispose ne sont pas vraiment à la hauteur. Mais voilà, donc je pense que c'est un livre qui a ce mérite-là. Au moins, il appelle un chat, et puis il tord le cou à un certain nombre de discours un petit peu vaseux et spéculatifs sur le caractère décentralisé, impersonnel, du réseau, de ses acteurs, et puis du coup du caractère un peu vague des risques que ça ferait peser. C'est ce qu'il dit rapidement dans au début du bouquin. Donc en fait, il nous explique que pour la première fois depuis l'essor de l'aviation en 14-18, aux trois armées traditionnelles et aux combattants du feu, je cite, là c'est page 21, est venu naturellement s'ajouter une armée dont l'écosystème est le cinquième élément, nous dit Ramonet, la cyberarmée, en charge de la cyberdéfense avec ses propres structures organiques, son état-major, ses cyberfantassins et ses armements spécifiques à base de superordinateurs prêts à livrer dans la sphère d'Internet la cyberguerre numérique. Ce n'est pas des jeux de mots, hein. C'est-à-dire qu'il faut le prendre vraiment au pied de la lettre. En plus des armées traditionnelles...
Il y a une structure hiérarchique militaire.
Il y a une structure hiérarchique militaire organisée, puissante, financée, pérenne, qui est voulue et décidée par les états-majors des grandes puissances mondiales pour effectivement mener cette guerre cybernétique-là, cette cyberguerre numérique, comme il dit. Il continue en nous disant, du coup la conséquence évidemment, c'est que Internet s'est recentralisé et qu'au départ la toile a été perçue comme une explosion de possibilités d'expression individuelle qui permettrait d'échapper à la dépendance des monopoles d'État, la poste, télégraphe, téléphone, des géants des télécoms et des grands médias dominants, presse, radio, télévision. Cette explosion était synonyme de liberté, d'évasion, de créativité. 25 ans plus tard, elle est en train de subir une violente recentralisation autour de quelques colossales firmes privées, les GAFAM dont je parlais tout à l'heure, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, toutes américaines, qui accaparent à l'échelle planétaire les différentes facettes de la toile et dont sont fortement dépendants les quelques 3,5 milliards d'internautes. Bon, ça c'est un point simple, mais qui a le mérite d'être précisé. Hein. On n'est plus dans une espèce de phase expérimentale d'Internet où chacun peut effectivement bidouiller dans son coin, explorer des possibilités nouvelles. Ça, c'est réglé. C'est-à-dire que les programmes de recentralisation et de contrôle étatique de la toile, ils sont largement avancés et largement opérationnels.
Bah, Internet est né d'un projet militaire de communication déjà, mais bon.
Voilà. Alors, ça
entre
fait
autres.
Exactement. Mais au départ, il y a toujours cette espèce de qui est pas un mythe, hein, mais qui est effectivement cette espèce d'illusion que dans la mesure où on avait pensé au départ à des fins militaires, un système décentralisé qui était incontrôlable pour ne pas détruire justement les centres de communication et que chacun pouvait de sa part de là où il était utiliser et continuer à communiquer, il y a eu cette illusion que finalement on avait un système qui était techniquement incontrôlable et insurveillable, ce qui est parfaitement faux. Hein, voilà, et qui aujourd'hui effectivement ne fait plus débat. Alors ça a des enjeux très concrets parce que là on parle de ça comme si c'était effectivement une innovation technologique et puis des mutations politiques nouvelles, mais alors le livre a été publié avant évidemment les fameux attentats et les lois d'état d'urgence constitutionnalisées avec l'aval de nos élus démocratiquement élus là,
et socialistes
entre autres. Ça pose des questions qui sont tout à fait aiguës, qui se posaient déjà en 2015 lorsqu'il y a eu le vote de la loi renseignement en France, hein, qui était déjà effectivement sous couvert de surveillance et d'anticipation du terrorisme.
Sous couvert de sécurité.
De sécurité, évidemment, des braves gens et des braves internautes.
De ceux qui n'ont rien à se reprocher.
Ouais, et alors là-dessus, il faut voir que le trait, il est mordu depuis très longtemps. Depuis très longtemps et que les réactions effectivement et les rejets, hein, et puis les critiques qui sont faites de tout ce développement législatif qui tend à tout simplement à installer dans la durée la surveillance électronique généralisée, c'est pas simplement des positions de principe ou de droit ou de vagues belles âmes de la Ligue des droits de l'homme ou de gens de la CNIL qui cherchent à défendre leur poste. Ce sont des attaques effectivement au droit à la vie privée et des mises en place d'espionnage systématique de n'importe qui. Voilà. Et de tout le monde, en fait, pour être exact. Et il rappelle, Ramonet aussi, que, par exemple, la loi renseignement votée le 25 juin 2015, c'est bon de l'avoir quand même en tête, à la suite des révélations de Snowden, a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par l'association irlandaise Digital Rights Ireland, et qui a invalidé, elle, en avril 14, la directive de 2006 sur la conservation des données. Il rappelle que c'est un jugement, voilà, donc qui fixe un cadre juridique européen sur lequel la France notamment s'assoit allègrement, et vient de s'asseoir encore plus allègrement avec la constitutionnalisation de l'état d'urgence, que ce jugement il condamne le principe d'une collecte indifférenciée des données relatives à des personnes pour lesquelles il n'existe, dit la Cour, je cite, aucun indice de nature à laisser croire que leur comportement puisse avoir un lien, même indirect ou lointain, avec des infractions graves. On n'a pas l'impression, si vous voulez, d'avoir besoin d'une formation juridique poussée pour comprendre effectivement un jugement de cet ordre-là. Oui. Il faut bien voir que, très concrètement, c'est ça qui se passe. Voilà, c'est ça qui se passe et c'est ça qui est en place. Et malgré effectivement des décisions de justice européenne qui sont apparemment intangibles lorsqu'il s'agit d'austérité budgétaire et que le débiteur est de nationalité grecque, et bien lorsqu'il s'agit effectivement de la vie privée et puis de l'intérêt du citoyen ordinaire européen, visiblement on est beaucoup moins sensible à la justice européenne, ce qui est encore une fois pas anecdotique, enfin il me semble, puisque alors il y a évidemment dans le bouquin de Ramonet toute une série d'informations qui concerne la mise en place du système de surveillance proprement américain, qui est colossal, hein, je vais y revenir. Mais il ne faut pas oublier, nous dit Ramonet, que la France n'est pas en reste et qu'elle est même plutôt en pointe sur ces questions-là. Il rappelle par exemple, page 50, que le journal Le Monde a révélé dès 2013 l'existence en France, dissimulée au cœur des services de renseignement, d'un mystérieux service classé secret défense, de recueil massif et de stockage des données personnelles. Son nom, de point, Plateforme Nationale de Cryptanalyse et de Décryptement, PNCD. La République a longtemps nié son existence, au nom de la raison d'État. Le Drian a fini par l'admettre le 15 avril 2015, et ce système ayant été créé en 1999.
Ah oui, c'est vieux.
Hein, donc la République a longtemps nié son existence.
Ça va bientôt faire 20 ans.
Ouais. Et ben voilà, on va fêter le 20e anniversaire. Donc à l'époque, en 99, là pour le coup, on était en pleine euphorie numérique.
Tu parles, on sortait à peine du militaire.
Oui, parce qu'il y a de la France, comme quoi, effectivement, la République n'est pas si en retard que ça, finalement, sur son temps, lorsqu'il s'agit de surveiller les citoyens. Et alors, donc, la République a longtemps nié son existence, au point que ce dispositif intrusif, dans lequel les services de renseignement français puiseraient à leur guise, sans aucun contrôle autre que celui de leur propre hiérarchie, est totalement passé sous silence dans la loi renseignement de juin 2015. Hébergé à Paris au 141 boulevard Mortier, dans les sous-sols du siège de la DGSE, ce Big Brother français y disposerait des supercalculateurs les plus puissants et y emploierait quelques 150 spécialistes, surtout des mathématiciens et des informaticiens de très haut niveau. Alors là, il cite effectivement une enquête de Vauvert qui dit que cet immense espace est le deuxième centre de décryptage informatique en Europe. Derrière son équivalent britannique, des ordinateurs géants trient tous les jours des dizaines de millions d'emails, de SMS, d'échanges par Skype, WhatsApp, Facebook, etc. Ils isolent automatiquement par numéro de téléphone ou adresse IP les échanges des individus visés. Un logiciel reconnaît la voix, un autre traduit. L'ensemble du trafic est ainsi passé à la moulinette, pays par pays. Des logiciels fouillent par mots-clés toutes les discussions par email, Facebook ou Skype. D'autres analysent les millions de métadonnées.
Et donc, maréchal en rêverait.
Oui, le maréchal en rêverait et Orwell n'a pas fini de se retourner effectivement dans sa tombe.
Ah non, là il est... Je pense qu'il n'est pas surpris.
Non, oui. Alors, c'est pour l'aspect français, c'est-à-dire que Ignacio Ramonet n'est pas seulement un anti-américain, parfois un peu primaire, effectivement. Chacun y a sa part, et notamment la République une et indivisible. Il rappelle aussi, alors il y a tout un chapitre qui est intéressant sur l'histoire du réseau Echelon. Donc, américain, lui.
Très connu.
Ouais, très connu, enfin très connu, mais pas depuis si longtemps. En tout cas, bien après sa création et sa mise en place et sa mise en place opérationnelle.
En général, quand ces trucs-là deviennent connus, c'est qu'il y a une plus grosse saloperie qui est opérante ailleurs.
Assez
fréquemment.
Ou que Assange ou Snowden met un petit grain de sable dans la machine. Sans faire un héroïsme démocratique, ça joue quand même un peu son rôle. Et il nous explique par exemple que c'est le réseau Echelon, évidemment, alors surveille les communications électroniques, ça va presque de soi maintenant, mais qu'il s'est notamment intéressé à tout ce qui était trafic aérien, mais déjà effectivement depuis de nombreuses années. Et donc, concrètement, ça signifie qu'avant même que le voyageur pénètre dans l'avion, les autorités américaines connaissent ses noms, prénoms, âge, adresse, numéro de passeport, de carte de crédit, son état de santé, ses préférences alimentaires qui peuvent traduire sa religion, ses voyages précédents, etc. Donc, bon voyage. Voilà.
Les gens se sentent plus en sécurité.
Ouais. Alors, l'intérêt du bouquin, c'est aussi de montrer que... Alors, il y a un côté très opérationnel et très pragmatique, évidemment, de cette utilisation militaire de l'espionnage numérique systématique de la population. Mais qu'évidemment, c'est à la fois très pragmatique et en même temps, c'est pas exempt de fantasmes assez délirants, en fait. Et il y a notamment dans l'histoire de la mise en place de ces systèmes-là, des fantasmes qui font assez froid dans le dos parce que, alors, effectivement, ce sont des fantasmes de surveillance et de contrôle assez effrayants, mais qu'ils finissent toujours par se réaliser au moins en partie. Et il rappelle notamment dans l'histoire, effectivement, du réseau Echelon que, alors, il y a eu un projet encore plus délirant que cela. Ce qui rappelle, page 65, le plus délirant de tous les projets d'espionnage de masse illégale, c'est celui qu'a élaboré le Pentagone sous le nom de Total Information Awareness, système de surveillance totale des informations confié au général John Poindexter, condamné dans les années 80 pour avoir été l'instigateur de l'affaire Iran-Contra ou Irangate. Le projet consiste à collecter une moyenne de 40 pages d'informations sur chacun des 7 milliards d'habitants de la planète. 40 pages. Et à confier leur traitement à une batterie d'hyperordinateurs, en traitant toutes les données personnelles disponibles. Paiement par carte de crédit, abonnement aux médias, mouvements bancaires, appels téléphoniques, consultations internet, courriers électroniques, réseaux sociaux, dossiers médicaux, fichiers policiers, dossiers des assureurs, listing des compagnies aériennes, informations de la sécurité sociale, etc. Le Pentagone compte établir la traçabilité complète de chaque individu vivant sur la Terre. Officiellement...
En fait, c'est marrant parce que quand tu fais cette liste...
Ouais.
Tu t'aperçois à quel point il est quasiment impossible d'être off the grid, d'être en dehors du réseau. C'est-à-dire qu'à moins de renoncer à la sécu, de renoncer aux soins médicaux, de renoncer à voyager par avion, à moins de...
tu peux pas, quoi.
Ah oui, t'as une numérisation, effectivement, des aspects de la vie qui est effectivement presque.
Il suffit pas de ne pas avoir Internet.
Ah non.
Pour être à l'abri.
C'est ça qui
est marrant. Et en plus, tu te dis aussi qu'ils ont même pas besoin de lire tes pensées. C'est-à-dire qu'il suffit, si tu recoupes toutes les informations là, que tu donnes, tu as une image de la vie et des opinions à tous les coups de la personne qui, à mon avis, peut être très, très, très précise, sans même jamais parler avec elle.
Ouais. C'est fou. Donc là, on est dans les années 80. Hein, donc, ça fait 35 ans, cette affaire-là. Et ce que dit Ramonet, c'est qu'officiellement, ce projet totalitaire a été abandonné, mais qu'en réalité, tous ses objectifs sont clandestinement maintenus, et l'une des missions actuelles de la NSA est de les mener à bout. C'est en tout cas ce que soutient Assange, sur la base des données qu'il a piraté lui et qu'il a.
On peut penser que c'est une espèce d'idéal qui fixe un cap.
Un idéal régulateur, comme on dirait chez Kant. Sachant que donc effectivement tous les objectifs et tous les efforts de connaissances et de compétences techniques convergent vers ça. Alors ça, c'est pour effectivement l'histoire du réseau Echelon et en fait la matrice, effectivement le fantasme de départ qui est à l'origine de la mise en place de ce réseau-là. Alors ça, c'est pour effectivement les informations dont qu'on a découvertes en partie, mais assez largement quand même par les révélations de Assange. Et il y a aussi tout un chapitre qui concerne, alors pour le coup, les révélations qui ont été faites par Snowden. Et qui concerne, elle, plutôt la mise en place du programme PRISM, dont je vais parler tout de suite après la...
Après une petite pause,
la pause musicale.
Qui vous permettra de souffler un petit peu et d'éteindre votre ordinateur ou de le casser.
Vous avez confié le maintien de l'ordre à un connard.
Ouais, c'est parfait, le maintien de l'ordre, c'est un boulot de connard, ça tombe bien.
C'est MR... Collectif Marie Reed. Quelques lignes de plus dans les dossiers d'Interpol. Quelques signes de plus qui soulignent le contrôle. Quelques recrues de plus, échelon RG Europol. Quelques cellules de plus, le capital construit les tôles, ouais. C'est là leur monde entre le strass et la crasse. Et ils filment et matraquent sur la Copernicusstrasse. N'ont pas de place pour celui qui sort du rang, à part dans l'un de leurs multiples camps d'enfermement. Le suivant sera ciel ouvert, CCTV dans les rues, CRS dans les TER. Ils incitent à la surveillance, la délation comme sous Vichy. Et bien sûr ce n'est jamais leur faute, comme à Sarcelles ou à Clichy. Ils abreuvent de clichés, la propagande sur les écrans. Craignent pour sa sécurité et accepter leur armement. Toute révolte ils peuvent l'acheter au prix d'un confort déprimant. Sinon ils sont des cachets, des seringues et des calmants.
Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance.
Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence.
Encore des mensonges et des ellipses en accord avec ceux qu'ils élisent, font des scores par la haine qu'ils attisent et décorent. Les majors de la bêtise, puis longtemps. La presse indépendante est enterrée depuis longtemps. La chasse aux dividendes est commencée, évidemment. Évidemment, faut pas le dire. Continue tout gober, ils peuvent toxir la tombe. Dana n'a rien de beau à prédire, les bombes. Sharia et dictature me font frémir. Ils nous dictent comment penser, comment bouffer, comment mourir. Comment mourir. Ils méritent avec leurs principes de précaution, leur tout sécuritaire et pourquoi pas l'extrême onction tant qu'ils y sont. Ils nous fliquent à chaque carrefour, que tu flippes. Quand tu sors de ta cour, ils nous mettent la pression comme à la bête. Traqués de la chasse à cour, on maintient nos intentions et on tient tête, non par haine mais par amour.
Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance.
Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Putain, y'a des hélicos dans le ciel, des flics plein la rue, la paranoïa devient démentielle. T'as vu, t'as cru pouvoir esquiver, mais affronter devient essentiel. L'horreur de la réalité, elle, s'est accrue. Bien plus que ce que t'as cru, ça devient ardu. Le choix entre la prison et l'apathie, entre les matons et la patrie. Quand je l'ai su, j'ai pas pleuré, j'ai pari. Depuis, je vois que ça part en couille de Los Angeles jusqu'à Paris.
Alors je me blinde et reste conscient du danger. Pour une manif ou un concert tu peux manger. Leurs chiens sont toujours prêts à être lâchés. Faut pas s'étonner que dès le matin on veuille les clasher. La classe est qu'ils endorment tout le monde à coups d'air ou de cachet. Cherche même pas à te cacher au dossier dangereux dans leur fichier t'es classé. Pas d'autre issue ici, que de se faire casser.
Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance.
Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et ce soir, donc, nous vous présentons un livre, enfin Jean-Mathias vous présente un livre d'Ignacio Ramonet, L'Empire de la Surveillance, suivi de deux entretiens avec Julien Assange, donc le fondateur de Wikileaks, et Noam Chomsky, l'anarchiste américain. Donc un livre publié aux éditions Galilée l'été dernier. Voilà, vous venez d'entendre un morceau de rap qui s'intitulait Subversion, enfin qui s'intitule Subversion contre Surveillance du collectif Marie Reed. Voilà, donc on en était au montage de grands réseaux de surveillance, je crois, informatique.
Oui, ben en fait, c'est le bouquin de Ramonet est construit un petit peu sur une espèce de chronologie de l'histoire récente, hein, relativement récente, disons des 30 dernières années, des réseaux de surveillance étatiques et militaires, du réseau Internet, des communications électroniques au sens large, et au fond, de toutes les informations numériques, de toutes les traces numériques, finalement, qu'on peut laisser au cours de notre quotidien,
hein, notre quotidien ouais.
Que ce soit effectivement des visites chez le médecin, des retraits bancaires, des communications internet, des SMS à vos proches ou moins proches. Et à chaque fois, effectivement, toutes ces traces numériques sont susceptibles effectivement de contribuer à dresser un profil. De votre mode de vie, de votre identité.
Surtout que si vous essayez d'y échapper, en plus, comme vous ne pouvez pas toujours y échapper, il va y avoir des blancs, mais des traces.
Exactement.
Donc les blancs aussi sont significatifs.
L'absence de traces est aussi significative
que la trace elle-même. Enfin, c'est un cauchemar, ce truc.
Mais j'aime assez le principe de traces, quoi, parce que faut jamais perdre de vue que ceux qui suivent les traces, c'est des chasseurs, quoi.
Voilà. C'est ça.
Donc là, en l'occurrence, les chasseurs, ce sont les agences d'espionnage étatiques françaises.
Et nous sommes les proies.
Et nous sommes les proies. Voilà. Celui qui est chassé, c'est un peu là-dessus. Effectivement, là, les mots sont assez assez incontournables. Et alors, c'est la chronologie qui propose donc autour de cette idée qu'en fait, la surveillance est bel et bien centralisée et qu'elle est entre les mains largement des États, en partenariat avec des firmes privées qui sont toutes américaines, hein, les fameuses firmes du GAFAM, là, et qu'on n'est pas dans effectivement un délire paranoïaque, on est dans un dispositif technique et stratégique de la part des états-majors américains et occidentaux pour mettre en place une surveillance effective et opérationnelle de l'ensemble des citoyens ordinaires. Et au plus large, dans l'idéal, effectivement, l'ensemble des individus susceptibles de laisser des traces numériques sur la planète. Donc, j'ai parlé dans la première partie de l'émission là, de ce qu'on pouvait tirer en fait des révélations de Assange et de la mise en place de WikiLeaks. Les chapitres suivants sont consacrés, elles, aux révélations de Snowden. Donc, Edward Snowden, on sait, un ancien assistant technique de la CIA. Qui avait alors 29 ans, hein, qui travaillait pour une entreprise privée, qui était sous-traitante de la NSA, et qui a fait fuiter un certain nombre de dossiers, notamment au Guardian britannique, qui ont permis de découvrir l'existence de réseaux de surveillance parfaitement clandestins, c'est-à-dire non officiels, notamment américains, et en particulier le désormais un peu célèbre, mais à mon goût pas assez, programme PRISM, qui a été lancé, lui, dès 2006, hein, et dont la finalité, elle, est d'espionner tous les appels téléphoniques à l'intérieur des États-Unis et aussi à l'étranger, notamment par des accords de partenariat secrets avec la compagnie Verizon américaine. Et la révélation de Snowden, ça consiste à dire que ce programme PRISM, développé par la NSA à partir de 2007, a en fait pour but de surveiller toutes les communications en provenance de l'étranger et passant par les serveurs américains. Donc dans la pratique, ce que nous dit Ramonet, c'est que la portée de Prism est bien plus grande, puisque ce réseau permet à la NSA un accès total aux serveurs des 9 des plus grandes compagnies d'Internet, toutes américaines. Alors là, on élargit un petit peu la sphère GAFAM, parce que les compagnies en question, qui, auxquelles donc les renseignements américains ont directement accès, ce sont, enfin, aux serveurs desquels la NSA a accès, c'est AOL, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Paltalk, Yahoo, Skype et YouTube.
Ça commence à faire beaucoup.
Ramonet notant qu'on note l'absence de...
Essayez de compter le nombre de sites que vous fréquentez, par exemple, dans cette liste. Ouais. Vous avez une petite idée des informations que vous laissez derrière vous.
Alors, il note l'absence de Twitter, hein, qui apparemment n'a pas de jusqu'à nouvelle heure, n'a pas de partenariat avec la NSA, et donc qui n'a pas accès aux serveurs de Twitter, et donc aux informations qui y sont stockées. Et l'idée donc de Prism, c'est que la NSA peut obtenir tout renseignement auprès de chacune de ces firmes globales, ce qui constitue le plus, je cite Ramonet toujours, en page 69, le plus colossal hold-up de données personnelles de l'histoire, et concerne des milliards de gens qui utilisent chaque jour, sur les 5 continents, les services de Facebook, Gmail, Skype ou Yahoo. Si au cours des 10 dernières années, une personne a eu recours à l'une de ces sociétés, ces données ont certainement été ces données ont certainement été interceptées et stockées par la NSA en application du programme Prism. Conversations audio et vidéo, photos, emails, fichiers joints, historique des connexions, chat vidéo et vidéo via Skype, fichiers Google Drive, Phototech, clés de connexion, tout est espionné, filtré, classé, archivé ou transmis à d'autres agences américaines de renseignement, CIA, FBI, pour vérification approfondie. L'autre document qui a été diffusé par Snowden, en plus de ces informations sur le réseau Prism, il montre qu'au cours d'une période d'à peine 30 jours, en mars 2013, par exemple, une unité de la NSA, la Global Access Operations, avait recueilli les métadonnées de plus de 124 milliards d'appels téléphoniques. 30 jours, hein. 124 milliards d'appels téléphoniques et de plus de 97 milliards de courriers électroniques. D'autres documents diffusés en juin 2013 par le Guardian montrent également qu'en moyenne, chaque mois, la NSA vole les métadonnées de quelque 13,5 milliards de communications en Inde, 2,3 milliards au Brésil, et avec la collaboration des gouvernements et des services de renseignement locaux, elle capte également les données d'environ 500 millions de communications en Allemagne, 70 millions en France, 60 millions en Espagne, 47 millions en Italie, etc. Sur une période de 30 jours.
Il leur faut des ordinateurs colossaux pour traiter ce genre de données.
Il leur faut des ordinateurs colossaux. Et alors, évidemment, l'aspect le plus spectaculaire, c'est la quantité d'informations auxquelles les espions américains ou occidentaux ont directement accès. Il rappelle aussi au passage, on le sait parce que c'est... Il me semble que le problème de ce type d'informations-là, c'est d'une part qu'on a du mal à mesurer les échelles. Et d'autre part,
c'est inimaginable.
Et d'autre part, que l'opinion a tendance à se focaliser sur quelques scoops, un peu justement où on peut fixer un peu l'imagination, qui rappelle évidemment. Alors, est-ce qu'on sait, je veux dire, effectivement, par exemple, le fait que les portables de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, du conseiller diplomatique de Witt ou de service de l'Élysée ont été directement espionnés par la NSA. Alors, évidemment, on se dit, bon, oui, mais après tout, on doit peut-être faire un pareil, et puis après tout, est-ce qu'il y a de si confidentiel ? Et puis après tout, on se dit, bon, peut-être que quand même, le plus confidentiel, ils ne sont pas assez cons pour le dire au téléphone, alors qu'ils savent que, en fait, on n'en sait que dalle, voilà, et il se trouve, en fait, ces appels-là, effectivement, on peut les compter sur le doigt des deux mains, mais effectivement, comparé à la masse de données qui est collectée, c'est quelque chose qui dépasse un peu l'entendement. Alors, la difficulté, ensuite, c'est de comprendre techniquement comment effectivement fonctionne la surveillance de masse de données de ce type-là. Alors d'abord, pour le comprendre, il faut mesurer peut-être le nombre de personnes qui sont mobilisées par ces agences de surveillance, c'est-à-dire les effectifs, le nombre de divisions de la cyberarmée américaine, française, britannique, etc. Combien de personnes sont salariées à temps plein
pour traiter effectivement toutes ces données. Pas traiter ces données, mais pour en tout cas traiter la synthèse.
Pour essayer de synthétiser effectivement ces données-là. Alors, il donne des chiffres là aussi, là-dessus. Alors ça, c'est Assange, hein, c'est des informations qu'on lui doit. Donc c'est un texte qui est disponible sur le site de Wikileaks, où Assange précise que chaque jour ouvré, 71 000 personnes dans 191 pays, représentant différentes agences gouvernementales américaines, il s'en tient juste aux agences américaines, se réveillent et prennent le chemin de leur bureau. Après avoir franchi des clôtures d'acier et des rangées de gardes armées, elles accèdent enfin à l'un des 276 bâtiments fortifiés qui composent les 169 ambassades et autres missions diplomatiques du département d'État américain à l'étranger. Elles y rejoignent les représentants et les agents de 27 autres ministères ou organismes du gouvernement des États-Unis, y compris la CIA, la NSA, le FBI et les différentes branches chargées du renseignement des forces armées américaines. On y trouve également des attachés militaires, c'est-à-dire des espions sous couvert de services extérieurs, des agents des autres agences gouvernementales des États-Unis. Dans certaines ambassades, on peut même rencontrer des commandos chargés des opérations spéciales clandestines. Bon. Sur le toit des bâtiments, de puissantes antennes radio et satellites scrutent l'air. Certaines sont directement branchées sur Washington pour envoyer et recevoir des messages du département d'État ou à la CIA. D'autres antennes servent à relayer les communications de navires de guerre et d'avions militaires croisant dans les parages. D'autres encore ont été directement installées par la NSA dans le but de surveiller massivement les téléphones portables et les communications électroniques de la population locale. Population locale, c'est-à-dire l'ensemble de la population où oui. Il y a des ambassades américaines, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Voilà. Alors ça, ça vous...
Capitale en tout cas dans les...
Alors ça, ça donne une idée des moyens humains. Voilà. Alors après, il y a la méthode 71 000 personnes salariées. Hein, sans parler évidemment des auxiliaires, des différents services militaires.
Peu, ouais. On dit d'ailleurs beaucoup d'auxiliaires parce que ça fait peu.
Ouais, ça fait peu.
Surveiller le monde entier. Ça fait beaucoup et peu, mais c'est vrai. C'est la population d'une petite ville en France. Quoi.
C'est-à-dire, c'est 71 000 personnes avec des ordinateurs, en fait.
C'est ça, oui, c'est ça. Il faut compter les ordinateurs.
Ils font pas que des mots fléchés, quoi. C'est... Alors, après, il y a évidemment la question qui se pose. Donc, ça, c'est sur les moyens humains. Alors, après, sur les moyens techniques, les puissances de calcul et de traitement d'informations des ordinateurs aujourd'hui. Il y a la méthode, il y a la question de la méthode. Alors évidemment, là, je pense que c'est important quand même d'avoir effectivement les chiffres de la quantité d'informations, les moyens humains concrets, parce que la méthode, on passe déjà à quelque chose d'un peu abstrait. Et ça déréalise un petit peu la chose. Alors la méthode, on l'avait évoqué ça dans le livre de Sadin, c'était déjà relativement mis en place, mais c'est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire sur la manière dont finalement l'ensemble des traces qu'on peut laisser sur le réseau, d'une manière ou d'une autre, c'est pas simplement sur Internet ou en passant des coups de fil, mais c'est en allant chez le médecin, en ouvrant un dossier sécu, en faisant un retrait bancaire, etc. etc. L'ensemble de ces traces dessinent... donne pas accès à tes pensées profondes ou intimes. Parce qu'en fait, ça, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils appellent en anglais les patterns, c'est-à-dire des espèces de schémas, de formes un peu générales, qui sont définies comme étant dangereuses pour la sécurité de l'État américain, français, britannique, etc. Donc ça veut dire que ce qu'ils cherchent à identifier, en fait, c'est la ressemblance formelle que tes traces peuvent avoir avec celles que laisseraient un terroriste potentiel, ou un subversif, ou un révolutionnaire, ou un opposant politique efficace, etc. Voilà. Donc effectivement, tous les logiciels qui sont mis en place pour traiter la masse colossale d'informations travaillent de cette manière-là. Alors là, effectivement, il y a un croisement avec les méthodes de traitement de l'information par les firmes à des fins publicitaires. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de savoir vraiment quels sont tes goûts, vraiment qui tu es, mais plutôt effectivement de repérer les formes, les patterns, les tendances. Les tendances, effectivement, les cristallisations, les mouvements d'ensemble. Donc on a quelque chose, effectivement, qui est une surveillance, en tout cas c'est l'objectif, qui a tendance effectivement à déréaliser un petit peu l'ennemi ou la proie, c'est-à-dire que c'est pas des individus, en quelque sorte, de chair et d'eau qui sont visés, c'est des formes, on va dire, des formes individualisées, oui, parce qu'elles ont une adresse IP et puis parce qu'au final il y a quelqu'un derrière, des formes et des tendances comme ça, on est sur cet ordre-là, mais c'est informatisable comme méthode de recherche, c'est informatisable. Alors évidemment avec des aléas et avec des limites, parce que ça n'empêche pas.
Ça va s'affiner avec le temps.
Ça va s'affiner.
Actuellement, là, ils ont réussi à faire un programme qui peut jouer au Go, au jeu de Go, le jeu japonais. Et pendant longtemps, ils avaient eu du mal parce que ils avaient un problème, c'est que l'ordinateur n'avait pas de reconnaissance de forme. Et le jeu de Go, c'est pas simplement un jeu qui est fondé sur une combinatoire de possibilités, puisque au Go, elles sont absolument colossales. Mais par contre, il faut reconnaître des formes qu'on peut faire en posant ses pions sur le plateau, sur le goban. Et je me disais, là, quand tu parles des patterns, c'est que finalement, peut-être que, tu vois, c'est ça qui est un peu flippant dans l'informatique, c'est que tu dis que peut-être qu'ils vont finir par utiliser des programmes qui sont nés dans les jeux de Go pour justement reconnaître ce type de forme.
Il y a effectivement peu de chances que ça se produise pas. Après, le problème, c'est évidemment le moment où cette espèce d'approche un peu abstraite, un peu technique, en fait, technologique des individus et de la surveillance, va connecter avec des ordres d'élimination physique.
Ben c'est ça, c'est ce que j'avais pensé. Alors, c'est-à-dire que tôt ou tard, ça se termine avec là, on envoie un drone.
Eh ben, tu y es, parce que voilà, donc là, on est effectivement, c'est... Alors bon, on est encore effectivement dans quelque chose qui est pas encore, quoique, enfin, l'utilisation des drones est relativement...
Très fréquente actuellement.
Fréquente, alors bon, l'utilisation létale, elle est déjà en place.
Elle est quotidienne aux États-Unis.
Quotidienne aux États-Unis. Il cite là-dessus l'ancien rédacteur en chef de la revue Wired, Chris Anderson, je ne connais pas, qui est fondateur de 3D, la société 3D Robotics, société de robots, et qui estime qu'il y a une tendance qui va se poursuivre et s'accélérer, et qui prévoit que dans un avenir proche, avec la prolifération des drones, il y aura, je cite, des millions de caméras volant au-dessus de nos têtes. Et ces drones peuvent, eux, parfaitement se baser sur des patterns of life, donc des espèces de schémas. Si un individu présente ses caractéristiques de vie, le rapprochant visuellement de celles d'une personne identifiée comme dangereuse, il sera ciblé et éliminé. À aucun moment, c'est important, son nom n'aura été connu. L'identité importe moins que l'élimination physique de quelqu'un qui ressemble à un dangereux terroriste. Donc effectivement, ça c'est le maillon exécutif quoi, de la surveillance. Et là, évidemment, on est à la limite de la science-fiction, mais on s'en rapproche là effectivement assez rapidement, puisque techniquement, on conçoit bien que ce soit pas du tout hors de portée en fait des solutions de ce type-là. Donc voilà, effectivement, on en est. Donc évidemment, ça implique aussi, voilà, alors de manière un peu plus abstraite, un certain nombre de déplacements quand même sur l'idée des droits individuels, par exemple, puisque en fait, c'est plus des individus nommés. En fait, on est au-delà de la carte d'identité, quoi. Là, hein, on est au-delà des papiers d'identité. On est plus sur un contrôle des identités personnelles. En fait, on est sur autre chose, hein, sur une identité qui est fabriquée et qui est programmée pour effectivement une élimination technique. Une surveillance et une élimination technique.
C'est même plus une identité du tout, en fait.
Non, puisqu'elle a rien de singulier.
Il n'y a aucun nom propre ici.
Exactement.
Il suffit de repérer des schémas, des formes. Et puis ensuite. Oui, et puis après, c'est possible. Ouais, c'est déjà plus ou moins fait, je pense d'ailleurs. Ouais. Obama a signé, je ne sais pas trop combien d'ordres d'exécution. Il dirait qu'il a même fait, ça pour un citoyen américain qui vivait au Yémen, je crois. Et c'est des trucs qui sont complètement en dehors de toute règle de droit, tout simplement.
Alors, oui et non, parce que ça, alors il esquisse un petit peu, si tu veux, ça dans la conclusion des réflexions là-dessus, mais c'est pas bon, c'est un propos qui est plus informatif, son livre, là vous l'aurez compris. Mais de fait, ça fait un petit peu gamberger sur les évolutions que ça implique en termes de droit. Parce que des évolutions, il y en a. Parce que j'évoquais la loi de renseignement tout à l'heure, l'état d'urgence ou la constitutionnalisation de l'accès illimité de la police aux données, aux données personnelles en France, ici, elle est inscrite dans le droit. Donc ça veut dire que tu as une espèce de concurrence entre un système juridique qui repose sur la responsabilité personnelle, qui est le droit hérité du droit romain, donc voilà, et la mise en place en fait de procédures tout aussi légales qui vont à un moment donné entrer en concurrence ou en contradiction directe avec ça. Parce que toutes les lois effectivement antiterroristes et les lois de surveillance numérique qui se multiplient malgré leur efficacité toute relative... C'est un côté rassurant, effectivement, en même temps, l'efficacité terroriste, c'est que ça prouve que, bon, sauf si on est vraiment paranoïaque et qu'on pense que, voilà, ils sont manipulés et qu'ils savaient que le 11 septembre n'est pas ce que vous croyez. Mais de manière plus abstraite, effectivement, c'est sur la question des mutations que ça implique sur le droit, c'est assez vertigineux. Hein. Alors, il cite un petit peu, il évoque juste à la fin, en citant un propos de Mireille Delmas-Marty, qui est une des plus grandes juristes françaises, notamment sur le droit international, et qui explique que plus qu'un changement, c'est une véritable métamorphose de la justice pénale et plus largement du contrôle social auquel on assiste. On est page 115, là, c'est à la fin du livre. Et elle explique par exemple que le Patriot Act, donc les lois antiterroristes qui ont été votées aux États-Unis après le 11 septembre, a rendu possible, sur ordre du président, une surveillance de masse et un régime pénal dérogatoire allant jusqu'à couvrir l'usage de la torture, voire d'organiser des assassinats ciblés ciblé pas sur des personnes, c'est ça, voilà, sur des menaces. Voilà. On est très vite passé à une guerre contre le terrorisme et élargie à l'ensemble de la planète avec l'ouverture du camp de Guantanamo hors du territoire américain, puis avec l'existence d'une toile d'araignée américaine dénoncée en 2006 par le Conseil de l'Europe, la carte des centres de détention secrets tenus dans le monde et les transferts illégaux de détenus. Alors bon, notamment les centres de torture en plein vol dans les avions au-dessus des eaux territoriales ou avec l'aval des services de renseignement européens, etc.
Dans des pays amis qui accueillent, ouais. qui sous-traitent aussi.
Et la mutation, il me semble, c'est qu'effectivement, le sujet de droit est en train petit à petit de devenir une cible. Techniquement, c'est ça. C'est-à-dire qu'une cible, effectivement, ce n'est pas une personne. C'est une menace, c'est un danger, et c'est quelque chose qui est éliminable, techniquement. Et on a effectivement, si effectivement on s'intéresse un peu aux évolutions du droit, l'espèce de définition juridique qui est en train de se mettre en place des individus comme cible, voilà, au nom de la sécurité, évidemment, sociale, si je puis dire, c'est assez, assez préoccupant. Tout ça pour dire que c'est effectivement pas simplement des petites questions d'augmenter les moyens de la CNIL, puisque il y a peu de chances qu'on évite en fait une évolution comme celle-là, dans la mesure où elle est même largement en place, quoi. Alors après, la partie un peu plus faible, là, juste peut-être pour terminer, ça concerne un peu les procédures de défense technique. Alors de fait, bon, alors c'est pas faux, mais de la même manière que Snowden, par exemple, Ramonet a l'air considérer que c'est le cryptage qui finalement, le cryptage des données, notamment par le biais des réseaux comme Tor, etc., qui techniquement devient quelque chose comme une responsabilité civique ou un devoir civique. Alors techniquement, d'après ce que j'en sais, c'est peut-être un peu moins euphorisant que ça comme solution, parce qu'il n'est pas certain que ce soit à l'abri de ça, mais...
À partir du moment où c'est crypté, c'est décryptable, et puis après il faut que tu demandes où t'as trouvé ton code de cryptage. Enfin bon,
oui. Et puis peut-être que bientôt on éliminera d'office tous ceux qui sont cryptés, comme ça on gagnera du temps.
Comme ils seront très très peu nombreux.
Comme ils sont peu nombreux, voilà.
Tu vois, on va les repérer. Hein.
Donc il y a ça, mais là où par contre je crois qu'on n'y coupera pas, c'est le fait effectivement d'être capable de trouver à la fois les ressources et puis les mots pour politiser la question, quoi. Et pour effectivement en faire une question de démocratie fondamentale. Et pas simplement une question de contrôle technique ou de surveillance de principe ou de déontologie, etc. Non, c'est une question démocratique qui va devenir effectivement de plus en plus pressante. Donc ça, c'est le... Alors ça paraît effectivement, les mobilisations, elles sont... il y a Wikileaks, il y a des espèces de figures un peu héroïques là, des donneurs d'alerte. Avec des ambiguïtés, parce que derrière, effectivement, dans les propos d'Assange, il y a une vision politique qui paraît des fois un petit peu rase-motte, et puis on voit pas exactement, c'est pas un militant politique classique, quoi, Assange, hein, et puis il a un côté un peu mégalo parfois aussi. Snowden est plus clair là-dessus, mais enfin, toujours est-il que pour l'instant, ils sont complètement tricards sur l'ensemble de la planète.
Assange, il vit dans l'ambassade bolivienne à Londres.
Et puis Snowden, il est planqué en Russie.
Il est planqué en Russie.
Sous la bienveillante houlette
de Vladimir.
Du grand démocrate Vladimir. Donc, il me semble, c'est un peu ce qu'on avait dit.
Il y a un troisième lanceur d'alerte qui a changé de sexe et qui est en prison aux États-Unis pour 99 ans, un truc dans le genre. Je sais plus, mais...
Et c'est vrai qu'on a un domaine là où effectivement pour le coup les sanctions sont immédiates et incalculables, quoi. C'est il y a peu de domaines où effectivement aussi sensibles que cela. Et de fait c'est un peu ce qu'on disait aussi lors de la dernière émission, c'est qu'il me semblait que il y a une difficulté qui est effectivement à imaginer de manière un peu tangible effectivement les enjeux, quoi, en termes de surveillance. Voilà, le côté est un peu noyé dans la masse. Alors je sais pas par quel bout faut le prendre, et puis le temps que ça prendra pour que ça devienne effectivement pour que ça passe à l'agenda, des revendications un peu démocratiques de base. Mais il faut espérer que ce soit le cas assez rapidement, quoi, parce que
ce qu'on peut se dire, c'est que ça, il faudra voir. Peut-être qu'on fera qu'il y aura des premiers tests. Est-ce que nous on les verra, je sais pas, mais sur des gros mouvements sociaux très très durs, à portée révolutionnaire, dans un mouvement dans un pays démocratique et très techniquement développé. Tu vois, si ça commence à être vraiment la merde, je sais pas moi, en Allemagne, en Angleterre, en France ou dans des coins des États-Unis, peut-être que là il y aura un retour de bâton très très violent de toutes ces technologies qui pour l'instant étaient indolores. Tu vois, c'est parce que tu peux te dire c'est contre le terrorisme, certes, mais à mon avis, à terme, c'est aussi contre tout changement comment dire, économique, politique et social un peu d'envergure, ce genre de truc. Il y a forcément un enjeu conservateur
derrière.
Contre toute
cible dangereuse.
C'est ça, contre donc, toute cible dangereuse pour l'ordre établi. Et donc, qu'est-ce qui, tôt ou tard, ça va péter quelque part. C'est l'histoire, l'histoire nous l'a montré, c'est que tu as des longues périodes de calme et puis après, ça pète. Bon. Bon, bah, ça va finir par péter à droite ou à gauche. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être là qu'il y aura un gros backlash.
Ça, c'est sur l'aspect militaire.
Ça, c'est sur l'aspect militaire.
C'est sur l'aspect militaire avec un agenda que tu contrôles pas.
C'est... Oui.
L'autre aspect, l'autre
c'est-à-dire
aspect.
C'est-à-dire que si, ouais, non, mais si, voir, si des manifestants et des leaders politiques et etc., se font bousiller à coups de drone dans un pays où la démocratie est en place, à mon avis, ça va se produire. À un moment ou à un autre, ça va se produire, ce genre de truc.
Il n'y a pas raison que ça ne se produise pas.
Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce que l'ordre établi va résister grâce à ses moyens de défense ou est-ce qu'au contraire il va exploser à cause de ses propres drones?
Il y a alors, juste,
une dernière
juste...
chose avant qu'on laisse l'antenne.
Un dernier point quand même, c'est je pense l'angle intéressant, c'est quand même aussi c'est la question de l'information et de l'accès à l'information, de l'accès public à l'information en démocratie. Qui peut être aussi alors une manière peut-être d'agir et de mobiliser avant, avant les exécutions sommaires dont tu parles là. C'est ce que dit Chomsky l'entretien à la fin du livre, et là-dessus je pense qu'il a raison parce que ça permet aussi de reposer l'accès à l'information tout court, et la critique des médias qu'on lui connaît, qui est plus classique et qui elle est plus ancrée, me semble-t-il, et de connecter ça, de connecter effectivement la question des lanceurs d'alerte, de l'accès à l'information en démocratie en général à celle effectivement de la surveillance des données privées. Voilà. Où est-ce qu'on place la limite de l'accès à l'information? Quelles sont les exigences de l'information de l'accès à l'information publique? Ça, c'est peut-être aussi un discours et un argumentaire à travailler là-dessus.
Voilà, donc on vous laisse, c'est pour Entre Chien et Loup. C'était un livre d'Ignatius Ramonet, L'Empire de la Surveillance, publié chez Galilée. Et voilà, on se retrouve dans deux semaines pour un livre sur Foucault et l'État, écrit par Arnaud Skornicki. Voilà.
C'est un piège
cruel et sans merci.
Je ne peux plus respirer.
C'est un piège.
Nous sommes perdus.
C'est un piège.
C'est un piège. Nous en souffrons. Nous en souffrons. Nous en souffrons.
Nous sommes perdus.
Nous en souffrons. Nous en souffrons.